vous. Allez, on va recevoir, comme chaque mois, Michel Faron. Et Michel, ça va? Bonjour, tout va bien?
Bonjour. Oui.
Alors là, Chapka est de sortie, hein.
Oui.
Voilà, c'est l'hiver. Alors, Constellation et Galaxie, on va redire deux mots avant de présenter votre chronique, hein, même si les fidèles auditeurs vous connaissent maintenant. Ça y est, vous êtes identifiés. Puis comment on relaye via Facebook? Alors, dites-nous quelques mots avant de vous lancer sur votre chronique.
Constellation et Galaxie, c'est une petite association basée en Dordogne, près de Mussidan. Et en fait, son activité est la diffusion de la culture scientifique et plus spécialement dans le domaine de l'astronomie, d'où les chroniques ici. Donc, on possède un planétarium itinérant qui peut se rendre dans les écoles, les collèges, les lycées ou d'autres structures pour montrer le ciel, souvent aux élèves, hein, la plus grande partie de notre activité est scolaire. Et d'ailleurs, une grande partie s'effectue dans la cube. Le mois dernier, en décembre, j'étais à Pessac, par exemple, en janvier... Je serai du côté des Innes et je crois qu'en février, il est prévu d'être à Peugeard. Donc, on intervient pas mal en Gironde.
Bon, on redonnera les coordonnées, hein, d'ailleurs, tout à l'heure. Mais c'est histoire de faire une entrée en matière. Alors, chronique astronomique numéro 4. Alors, comme chaque fois, collé à l'actualité, les saisons, bien sûr. Donc, on va parler notamment de Noël. Hein.
Et du solstice, parce qu'en fait, si vos auditeurs se souviennent, la première chronique que j'avais faite en septembre, j'avais parlé de l'équinoxe, hein, qui tombait le 22 septembre cette année, et le rôle joué par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre pour expliquer le phénomène des saisons, avec un soleil qui monte plus ou moins haut dans le ciel et qui reste plus ou moins longtemps. Et ça nous explique que la Terre est plus ou moins chauffée, et c'est le phénomène des saisons. La semaine dernière, dans la nuit du 21 au 22 décembre, c'était le solstice d'hiver. Si on veut être précis, c'était à 0h, 3 minutes et 1 seconde. C'est le moment où le soleil atteint sa position la plus basse sous l'équateur. Et donc, c'est la nuit la plus longue de l'année pour nous, qui sommes dans l'hémisphère nord. Et on a eu à peu près un peu plus de 15 heures entre le coucher et le lever du soleil dans la nuit du 21 au 22. Par convention, on a l'habitude de faire commencer l'hiver au solstice. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis le 22 décembre, les jours rallongent, alors que dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse, ils commencent à raccourcir, ils viennent de rentrer dans l'été, point. Alors, je voulais juste éclairer un petit point de vocabulaire. Équinoxe, c'est assez facile à comprendre, hein, puisque équi égale nox, la nuit, c'est les jours où la nuit est égale au jour. Le soleil brille exactement 12 heures dans le ciel, le jour de l'équinoxe. Le mot solstice vient aussi du latin, mais c'est pas facile à comprendre, ça veut dire le soleil s'arrête. Hein, sol, c'est le soleil, estis, s'arrêter. Alors pourquoi le soleil s'arrête? Si on prend le temps de regarder le soleil se coucher, par exemple chaque soir, on verra que jour après jour, hein, il faut prendre un repère à l'horizon pour bien repérer là où il se couche, on verra jour après jour que pendant tout l'automne, il dérive de plus en plus vers le sud. Et d'ailleurs, au solstice d'hiver, il se couche presque au sud-ouest et non pas à l'ouest comme on croit toujours. Le solstice, c'est le jour où le mouvement s'arrête et le soleil repart dans l'autre sens, en direction du nord, jour après jour, et il se recouchera pile à l'ouest, à l'équinoxe de printemps. Ça, c'est la théorie, hein, parce qu'en pratique, pendant à peu près une dizaine de jours, 5 jours avant, 5 jours après le solstice, il est bien difficile de voir la position du soleil changer à l'horizon. Mais ces jours-ci, on est 10 jours plus tard, on peut voir, si on fait attention, que le soleil a repris son chemin vers l'ouest. Alors le rapport entre Noël et le solstice, hein, c'est quand même pas vraiment une coïncidence que Noël soit proche du solstice d'hiver. En fait, il faut savoir que la plupart des fêtes chrétiennes sont symboliques et ne correspondent pas à de véritables dates historiques. Quand on a voulu implanter le christianisme, au début du christianisme en Europe, c'était beaucoup plus simple de ne pas changer les habitudes en reprenant plus ou moins les dates des fêtes païennes qui existaient auparavant. On sait bien que certaines fêtes était en rapport avec le soleil et les solstices. Hein, tout le monde a vu des images de druides au solstice à Stonehenge, par exemple. Alors, d'où le choix de la période du solstice d'hiver pour placer Noël. Alors, d'après ce que j'ai lu il n'y a pas bien longtemps, un article, là, il semblerait que le 25 décembre, précisément pour Noël, corresponde au moment où justement on peut commencer à voir le soleil à nouveau se décaler vers le nord.
Allez, ça c'était l'actu, mais on va y rester avec le calendrier. Hein. Vous allez nous dire quelques mots sur le calendrier, hein, cette fin décembre, dernier jour, voilà, on est vraiment dans l'actualité.
Voilà, je trouve que le 31 décembre, alors qu'on va changer d'année, c'est la bonne date pour parler du calendrier. D'autant que on le voit peut-être pas, mais le calendrier, c'est beaucoup de l'astronomie. Moi, j'ai l'habitude de dire dans les collèges, par exemple, aux élèves, que le calendrier, c'est que de l'astronomie. Alors, il faut d'abord s'interroger sur ce que c'est qu'un calendrier. Si nos auditeurs regardent le calendrier 2015 des postes ou des pompiers, hein, qu'ils ont sûrement eu il y a quelques jours, on peut voir qu'il contient le numéro de l'année, 2015, le décompte des jours auxquels on donne des numéros et des noms, hein, par exemple lundi 26 janvier, Et avec ces jours, on accole des fêtes civiles ou religieuses qui sont définies à ces dates. Hein, si je prends l'exemple du 26 janvier, c'est la Sainte-Paul. Hein, j'ai choisi cette date parce que ma mère s'appelait Paulette et que c'était sa fête. Pour le numéro de l'année, c'est simple. On prend un point de départ symbolique et on compte les années écoulées depuis ce point-là. Alors pour les chrétiens, on sait bien que c'est la naissance du Christ qui sert de point de départ. Pour les musulmans, c'est l'Égypte. Pour les juifs, la création du monde d'après la Genèse. Et on comprend bien que du coup, aucune des années ne se correspondent dans ces trois calendriers. Dans l'Antiquité, il y a même eu des exemples bien plus compliqués. Hein. Les Égyptiens s'amusaient à recompter les dates à partir de chaque nouveau pharaon qui montait sur le trône. Donc pour faire la correspondance entre les dates des Égyptiens et les dates de notre calendrier, c'est un vrai casse-tête. Alors, les jours et les années dont je vous parle pour le calendrier, ce sont bien sûr des phénomènes astronomiques. La journée, avec l'alternance du jour et de la nuit, c'est le résultat observable pour nous de la rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures. Alors, si on veut être précis, c'est la rotation synodique de la Terre, c'est-à-dire en prenant le Soleil comme repère. Un jour, je vous expliquerai peut-être qu'à partir des étoiles, c'est légèrement différent. L'année, c'est la durée de la révolution complète de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Alors comme c'est un phénomène lent, on le voit surtout au travers du changement des saisons et des cycles biologiques. En hiver, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, puis il vient des feuilles, les fleurs, les fruits. On peut aussi observer la reproduction des animaux, en général au printemps ou en été. Mais la durée de l'année n'est pas facile à mesurer à cause de cette lenteur. On peut dire, en simplifiant un petit peu, que c'est avec les solstices qu'on arrive à mesurer cette durée, et on sait aujourd'hui qu'elle est à peu près de 365 jours et un quart de jour, c'est-à-dire 6 heures. Alors pour nos calendriers, c'est pas pratique, on va pas s'amuser à compter 6 heures de décalage chaque année, on va pas fêter Nouvel An un jour à minuit, l'année suivante à 6 heures, l'année suivante à midi, etc. Donc on met un nombre entier de jours dans le calendrier, 365 jours en arrondissant. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on fait une petite erreur d'un quart de jour chaque année. Et pour se corriger, tous les 4 ans, hein, 4 fois un quart, ça fait 1, on met un jour de plus dans le calendrier, c'est ce qu'on appelle l'année bissextile, pour corriger l'écart par rapport à la rotation de la Terre autour du Soleil. Si on le faisait pas, le calendrier dériverait lentement par rapport à l'orbite de la Terre autour du Soleil, ce qui ferait que, par exemple, les saisons se décaleraient dans le calendrier. Et ce serait pas du tout pratique, notamment pour les agriculteurs.
Et les mois et les semaines ?
Alors, les mois et les semaines, c'est un autre phénomène astronomique. Si on observe la Lune dans le ciel, on s'aperçoit que jour après jour, elle change de forme. Ça vient du fait que la Lune a une révolution autour de la Terre, elle tourne autour de nous, et du coup, son éclairage par le Soleil fait changer la forme de la partie éclairée qu'on peut voir. On connaît bien les croissants, qui sont plus ou moins grands. On dit que c'est un quartier quand la moitié de la Lune est éclairée. On dit qu'elle est gibbeuse quand elle est plus grosse. Et bien sûr, tout le monde connaît la pleine Lune, avec le limbe qui est complètement éclairé de face par le Soleil. Alors, ce cycle, on a de bonnes raisons de penser qu'il est observé dès la préhistoire. En Dordogne, il y a un os gravé daté d'environ 32 000 ans avant Jésus-Christ, et dont l'étude, notamment en 64 par la NASA, semble démontrer qu'il représente un cycle lunaire d'une période d'à peu près 6 mois. Alors, ce changement d'aspect de la Lune, c'est le moyen le plus simple pour compter les jours, et il a servi bien évidemment de base au calendrier dans l'Antiquité. Le cycle complet, on l'appelle une lunaison, dure 29 jours et demi, et on voit bien que ça commence à ressembler un petit peu à nos mois. Dans la semaine, pour expliquer la semaine, il faut regarder les principales phases de la Lune. D'ailleurs, elles sont marquées dans le calendrier des postes. Hein, on repère la nouvelle Lune, quand on ne voit pas la Lune dans le ciel parce qu'elle est tournée avec le côté dans l'ombre en face de nous. Le premier quartier, la pleine Lune, et le dernier quartier. Ça fait 4 grandes phases. Si on divise le cycle de la Lune, 29 jours et demi par 4, ben on va trouver à peu près 7. Et c'est les 7 jours de la semaine. Donc si on regarde dans le calendrier, il y a à peu près une semaine entre les grandes phases de la Lune. Alors comme c'est un tout petit peu plus que 7, 7,3 je crois, quelque chose comme ça, ben à force d'ajouter des petits morceaux de jours, ça finit par se décaler. De temps en temps, on voit qu'il y a 8 jours dans le calendrier entre deux phases de la Lune. Alors ça nous a valu une bizarrerie, parce que dans l'Antiquité, on avait aussi 7 planètes visibles dans le ciel. Hein, si on regarde le ciel sans télescope et sans lunettes, on voit à l'œil nu 5 planètes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Sauf qu'à l'époque, on considérait le Soleil et la Lune aussi comme des planètes, parce que tout simplement, c'était des corps qui se déplaçaient par rapport aux étoiles. Donc on avait 7 planètes dans le ciel, 7 jours dans la semaine, et par un processus, alors là, qui est très très compliqué, je ne vais pas l'expliquer ici, on a associé chaque jour de la semaine avec une planète. Et on le retrouve bien dans les noms. Lundi, c'est le jour de la Lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, le jour du Soleil. sauf qu'on l'entend mieux quand on le prononce en anglais, Sunday, ou en allemand, Sonntag, qu'en français, parce qu'en français, en réalité, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Hein, c'est les chrétiens qui l'ont baptisé comme ça. Donc on voit bien que même dans les noms des jours de la semaine, on retrouve de l'astronomie.
Alors on va revenir au calendrier pour essayer de comprendre ces subtilités, car il y a des mois de 30, 31, voire 28 jours, hein, comme en février par exemple.
Voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors au départ, on a basé les calendriers sur les lunaisons, hein, comme j'expliquais, en définissant des mois de 29 et 30 jours, hein, alternativement, ça va faire une moyenne de 29,5, on retombe pile sur la lunaison. Donc c'est un système très très simple, il suffit de regarder la lune dans le ciel, en voyant sa forme, on sait quel jour du mois on est. Ça se complique un peu quand on veut faire coïncider ce calendrier avec l'année solaire de 365 jours. Parce qu'en fait, 12 lunaisons, 12 mois lunaires, c'est 12 fois 29 jours et demi, ça fait 354 jours. Donc il y a un écart de 11 jours par rapport à l'année solaire. Alors cette difficulté est résolue de manière différente suivant les calendriers. La première solution, c'est de rester purement sur un calendrier lunaire. Et c'est le cas du calendrier musulman, qui est purement lunaire, avec des années de 354 jours, parfois 355, pour dire un petit peu la compensation d'années bissextiles pour nous. Dans le calendrier musulman, ça s'appelle des années abondantes. Mais le problème de ce calendrier, c'est qu'il se décale sans arrêt par rapport au soleil et à notre propre calendrier. On sait bien que les musulmans observent la lune pour connaître le calendrier. C'est le petit croissant de lune, dès qu'il réapparaît après la nouvelle lune, qui définit le premier jour du mois et par exemple la fin du mois du ramadan. La deuxième solution, c'est essayer de réconcilier le calendrier lunaire et le solaire en compensant les 11 jours de décalage qu'on a chaque année. Donc ça fait à peu près un tiers de mois, tous les 3 ans à peu près. Alors ça, c'est le cas du calendrier des Juifs, qu'on dit lunisolaire, hein, puisqu'il mélange la lune et le soleil, avec des années ordinaires de 12 mois lunaires et des années plus longues de 13 mois lunaires, qu'on appelle, d'un nom un peu compliqué, embolismique. Et c'est un cycle de 19 ans qui permet d'avoir à peu près la coïncidence entre les calendriers lunaires et solaires. Et enfin, la troisième solution, la plus pratique pour les agriculteurs, on verra que c'est celle qu'on a dans notre propre calendrier, c'est d'essayer de réconcilier le calendrier lunaire avec l'année solaire en trichant sur la durée des mois. Comme il y a 11 jours de décalage et qu'il y a 12 mois lunaires dans le calendrier, eh ben on va mettre un jour de plus par mois, sauf le dernier mois, hein, puisqu'il y a 12 mois. Donc les mois qui faisaient 29 et 30 jours vont faire 30 et 31, et il y a un mois qui est plus court que les autres. Et ça commence à ressembler pas mal à notre calendrier. Alors ça n'explique pas exactement pourquoi le mois de février a 28 jours, et qu'il y ait deux mois qui se suivent qui ont 31 jours, le mois de juillet et le mois d'août. Alors ça, c'est les Romains, hein, qui permettent de comprendre pourquoi c'est comme ça. Si on remonte à peu près 150 ans avant Jésus-Christ, le calendrier romain était un calendrier purement lunaire, avec des mois de 29 et 30 jours. Alors, par rapport à notre calendrier, il avait une particularité, il commençait en mars, qui était un mois de 30 jours, avec 4 mois qui avaient des noms, mars, avril, mai, juin, je vous le fais en français parce que je suis pas vraiment un latiniste, et 2 mois en fin d'année, janvier et février, hein, c'était à l'époque les 2 derniers mois de l'année. Donc tous ces mois portaient des noms qui avaient un rapport soit avec des divinités, soit avec des personnalités remarquables, et entre les deux, entre le début et la fin de l'année, bon, on avait simplement numéroté les mois. Là, je vais vous le faire en latin. Il y avait Quintilis, le 5e mois, Sextilis, le 6e, etc. Et on commence à comprendre pourquoi il y a une bizarrerie dans notre calendrier, parce que les mois de septembre à décembre, qui ont gardé pratiquement leur nom romain, sont des noms qui font référence à des nombres, hein, 7, 8, 9, 10, mais ça correspond pas du tout à la position du mois dans l'année actuelle, à cause de ce décalage. L'année commençait en mars et il y a un décalage de 2 mois par rapport à nous. Ce calendrier, qui était purement lunaire, a été réformé en 45 avant Jésus-Christ, sous le règne de Jules César, mais c'était un astronome grec qui avait proposé ce changement de calendrier, il s'appelait Sosigène d'Alexandrie, c'est pas facile à prononcer, et qui a proposé qu'on adopte un calendrier solaire. Donc on a distribuer les 11 jours de décalage de l'année solaire sur les 12 mois lunaires. Donc les mois qui faisaient 29-30 jours sont passés à 30-31, sauf le tout dernier, qui à l'époque était février, qui n'a rien reçu, lui, dans la distribution des 11 jours, et qui est donc resté un mois de 29 ou 30 jours, suivant que les années étaient ordinaires ou bissextiles. On en a profité pour changer le début de l'année, qu'on a mis au 1er janvier. Et bien sûr, comme tout ça s'était fait sous le règne de Jules César, on a voulu lui rendre hommage. D'abord, le calendrier s'appelle Julien, hein, encore aujourd'hui, du nom de Jules César. Et on a donné le nom de Julius, hein, Jules César, au premier mois qui n'avait pas de nom, hein, le Quintilis, donc qui est maintenant notre mois de juillet. Alors bien sûr, pour l'empereur, on pouvait pas faire moins que de lui mettre un mois de 31 jours. Hein, donc les mois suivants, hein, étaient 30 jours pour août, 31 pour septembre, etc., ce qui n'est plus la situation actuelle. Pour comprendre comment ça s'est encore modifié, il y a une deuxième réforme qui a eu lieu quelques années plus tard, en 9 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Auguste. En fait, il faut comprendre que la notion de d'année bissextile hein, du calendrier julien était un petit peu nouvelle, et ils sont un petit peu plantés en comptant les années bissextiles. Donc il a fallu recaler le calendrier. Alors comme on a fait cette modification sous Auguste, on a aussi voulu lui rendre hommage, comme on avait fait à Jules César. Donc on a baptisé Augustus, le premier mois qui n'avait pas de nom, c'est notre mois d'août, et c'est encore plus évident quand on le dit en anglais avec Auguste. Alors comme on avait donné un mois de 31 jours à César, on pouvait pas faire moins que donner un mois de 31 jours à Auguste. Donc on a voulu faire passer le mois d'août à 31 jours, mais pour ça, fallait piquer un jour quelque part dans le calendrier, et on a piqué un jour au mois de février. Et c'est comme ça que le mois de février, qui faisait 29 ou 30 jours à l'époque, suivant les années ordinaires ou bissextiles, est passé de 28 à 28 et 29. En mettant le mois d'août à 31 jours, on risquait d'avoir 3 mois de suite qui avaient 31 jours, juillet, août et septembre. Donc on a rectifié tous les mois suivants, en passant septembre à 30, octobre à 31, etc. Et c'est notre calendrier actuel, qui doit donc, pour une bonne part, ses bizarreries aux évolutions du calendrier romain. Alors en réalité, on n'est plus aujourd'hui dans le calendrier julien, hein, dont je vous ai parlé, on n'a pas donné de nouveau nom après la réforme d'Auguste, mais on est dans le calendrier grégorien, parce que le calendrier est encore rectifié en 1582 sous le règne du pape Grégoire XIII. Mais comme ça n'a pas vraiment de rapport avec le compte des jours, etc., c'est en rapport avec le compte des années bissextiles, on pourra en reparler une autre fois, par exemple en février, je voudrais pas trop compliquer les choses aujourd'hui.
On en parlera. Pas de souci. Allez, le ciel du mois, notamment la voûte céleste et les constellations.
Dites-nous. Alors, on commence à voir le ciel d'hiver en ce moment, mais c'est assez tard. C'est plutôt autour de 22-23 heures hein, qu'on voit bien les constellations typiques du ciel de l'hiver. Donc, je vais faire un petit peu comme en automne, où j'avais pas parlé tout de suite du ciel d'automne en septembre, mais j'avais attendu octobre. Là, je vais attendre fin janvier, comme ça, ce ciel, ces constellations, on pourra les observer plutôt le soir. Du côté des planètes. En janvier, c'est encore Jupiter qui reste la planète la plus facile à observer. C'est l'objet le plus brillant qu'on peut voir dans le ciel, hein, sauf la Lune, bien sûr. En ce moment, elle se lève vers 21h. Fin janvier, ce sera à peu près 18h30. Et on la voit toute la nuit. Et elle reste visible même jusque dans les lueurs du petit matin, tellement elle est brillante. Hein. Si vous regardez le ciel à n'importe quel moment de la nuit en ce moment et que vous voyez un objet très, 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 très brillant, bien plus brillant que toutes les étoiles, vous pouvez pas vous tromper, c'est Jupiter. Quand elle est assez haute dans le ciel, hein, quand c'est trop bas, c'est un petit peu brouillé par l'atmosphère. Quand elle est assez haute dans le ciel, comme je l'ai déjà dit les chroniques précédentes, on peut essayer de regarder ses quatre principaux satellites juste avec une paire de jumelles. Il n'y a pas besoin de télescope, rien qu'avec une paire de jumelles, on verra comme quatre petites étoiles alignées à côté de Jupiter. Alors pas toujours quatre, hein, parfois il y en a un qui peut être devant ou derrière et qui est caché, mais on peut en voir jusqu'à quatre qui forment un petit alignement autour de Jupiter. C'est la principale planète qu'on peut observer en janvier, mais petit à petit, surtout à partir de la mi-janvier, on commencera à revoir Vénus dans le ciel du soir. Donc elle aussi très très brillante, à observer un petit peu après le coucher du soleil. Et si on fait bien attention, parce qu'elle est moins brillante, elle est moins facile à voir, on pourrait voir aussi Mercure pendant le mois de janvier, toujours le soir après le coucher du soleil. Alors ces planètes, de temps en temps, elles nous font des beaux spectacles dans le ciel en se rapprochant de la Lune, ou plutôt c'est la Lune qui se rapproche de ces planètes. Alors, il y a quelques dates comme ça dans le mois de janvier. Le mercredi 7 au matin, la Lune qui sera presque pleine, donc très très grosse, sera assez proche de Jupiter. Le vendredi 16, on aura un petit croissant de Lune près de Saturne, le matin. Et le mercredi 21, on pourra observer le soir un très très fin croissant de Lune, parce que c'est juste après la nouvelle Lune, qui sera près de Mercure avec Vénus un petit peu plus loin. Donc tout ça, ce sont des paysages qu'on peut prendre en photo assez facilement. Je voulais vous parler de comètes, parce que depuis quelques jours, on a une petite comète qu'on peut observer dans le ciel. Alors elle a un nom un petit peu bizarre, hein. C'est plutôt un numéro, comme je l'avais déjà expliqué une fois ici. Elle s'appelle C2014Q2 Lovejoy. On la voit dans le ciel, mais il faut une paire de jumelles. Elle n'est pas visible à l'œil nu, elle est un tout petit peu trop faible. En janvier, elle deviendra de plus en plus brillante, elle viendra presque à être visible à l'œil nu, pas tout à fait, mais presque. Donc assez brillante, et elle sera de plus en plus haute, ce qui facilitera son observation. Alors le problème d'une comète, c'est qu'elle bouge sans arrêt, hein, jour après jour dans le ciel, et je pense que le plus simple, ce serait de renvoyer nos auditeurs à notre site web pour avoir les cartes qui permettent de la situer dans le ciel, puisque sa position change chaque jour.
Voilà, on va rappeler d'ailleurs le site internet. Hein.
Alors le site internet de notre association, c'est www.constellationsetgalaxies.org. Il y a une rubrique astronomie avec le ciel du mois, où on trouve les cartes hein, et les explications un peu plus détaillées que ce que je fais sur l'antenne tous les mois. Et bien sûr, il y a toutes les informations pour ceux qui s'intéressent à notre planétarium, notamment les établissements scolaires de Gironde, du moins on l'espère, avec les tarifs, la façon dont on se déplace, la place qu'il faut pour l'installer, etc., le contenu d'une séance, toutes les explications qui sont utiles aux professeurs, et bien sûr, qui n'hésitent pas à nous contacter.
Voilà, alors la chronique n'est pas tout à fait terminée. Alors quelques vœux, vous allez anticiper d'ailleurs, et puis un petit coup de gueule, Michel.
Voilà, ça va devenir une habitude.
Bon.
Alors oui, c'est pas tellement la tradition de présenter ses vœux le 31, mais comme la prochaine fois que je reviendrai, ce sera à la toute fin janvier, ce sera, je trouve, un peu tard, je m'autorise à anticiper un tout petit peu pour souhaiter une bonne et une heureuse année à vos auditeurs. Mais je voulais aussi souhaiter un heureux déroulement aux missions spatiales de 2015. Notamment Rosetta, dont on a déjà parlé ici, qui doit accompagner la comète 67P Chury pendant toute l'année. Et il y a aussi une autre mission de la NASA qui s'appelle New Horizons, qui a été lancée en janvier 2006 et qui doit atteindre Pluton après un voyage de plus de 9 ans. Et alors, bizarrerie, elle devrait arriver à Pluton le 14 juillet 2015. Mais les Français y sont pour rien, hein. Et je voulais aussi souhaiter une bonne année 2015 à l'astronomie et à la recherche française. Parce qu'il faut savoir que depuis plusieurs années, les chercheurs passent beaucoup de temps à chercher des financements nécessaires à leurs travaux et parfois plus qu'à mener leurs expériences ou leurs observations. Ces dernières semaines, j'ai entendu des bruits de couloirs, donc je peux pas préciser plus pour le moment, qui me font penser qu'il y a des observatoires que je connais qui pourraient avoir des difficultés prochainement. Et je trouve que c'est toujours désolant de voir une coupole se fermer définitivement ou un télescope qui est privé de la lumière des étoiles. Alors, on peut s'interroger, par les 30 crises qu'on traverse, pourquoi on consacre tant d'argent à la recherche, c'est pas si cher que ça, mais pourquoi on consacre de l'argent à la recherche fondamentale comme l'astronomie? Parce qu'on ne perçoit pas les applications pratiques que peuvent avoir ces études. Alors, le problème, c'est que l'intérêt de ces recherches ne se révèle souvent que très longtemps après. Et je prendrai un exemple. On connaît, je pense, tous, au moins de nom, la relativité, la théorie de la relativité d'Einstein, qui date de 1915, donc on fêtera le centenaire l'année prochaine. Et on peut penser que ça n'a de rapport qu'avec l'univers, la vitesse de la lumière, la gravité, le Big Bang, toutes des choses qui sont très éloignées du quotidien. Eh bien, il faut savoir que pourtant, c'est grâce à la théorie de la relativité d'Einstein qu'on peut avoir des GPS qui fonctionnent avec la précision qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire de l'ordre d'une dizaine de mètres. Mais ça fait seulement 30 ans qu'on le sait. Donc je souhaite un bel avenir à la recherche et à l'astronomie, et en particulier en France, parce qu'il faut savoir que la France est un grand pays d'astronomie.
Bon, donc vous clôturez cette chronique par des points positifs néanmoins, donc un petit coup de gueule, mais ça reste positif. Alors Michel, on va rappeler bien sûr à nouveau le site internet de votre association, Constellation et Galaxie. On se retrouve pour la numéro 5, la chronique, donc fin janvier.
Ça doit être le 25 ou 26 janvier, le dernier mercredi du mois.
Voilà, mais ça c'est un rendez-vous, sauf peut-être on va décaler à un moment donné en février, mais on aura le temps d'en reparler en janvier. Allez, rappelez-nous donc le site internet, même si nos auditeurs maintenant l'ont bien noté. Hein.
Donc www.constellationetgalaxie.org. Vous verrez sur le site qu'il y a différentes rubriques correspondant à différents onglets sur la page d'accueil, en particulier la partie astronomie, donc plus en rapport avec nos chroniques ici, le ciel du mois, les cartes, les explications des constellations et des objets qu'on peut voir facilement dans le ciel, ou des rapprochements, comme j'ai dit tout à l'heure, de la Lune, par exemple, avec des planètes. La rubrique planétarium, où là on va trouver toutes les informations, donc je pense surtout aux professeurs des écoles, des collèges, des lycées que ça peut intéresser. Comment se déroule une séance de planétarium? Quelle est la place, disons, les conditions techniques pour installer le planétarium dans un établissement? Les tarifs de déplacement, d'animation, etc. Il y a aussi une autre rubrique, mais qui intéresse moins les Girondins, donc je pense que ça a moins d'intérêt d'en parler sur l'antenne, mais juste pour le signaler, il y a aussi une rubrique qui parle d'exposition, parce qu'en Dordogne, en dehors de cette activité de planétarium, nous faisons circuler aussi des expositions à thématiques scientifiques dans les centres de documentation des collèges et des lycées de Dordogne. Une opération qui s'appelle Un collège, une expo.
Un avant-goût de la chronique numéro 5.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas parlé du ciel de l'hiver, parce que c'est un petit peu tôt, fin décembre. Les constellations, on les voit que déjà assez tard dans la soirée. Donc je pense que fin janvier, la chronique sera sans doute plus consacrée au ciel de l'hiver, aux constellations du ciel de l'hiver, le grand G de l'hiver et la très très belle constellation d'Orion, qui est souvent la constellation préférée de beaucoup d'astronomes. En février ou mars, puisqu'il y aura peut-être un décalage, peut-être que je vous parlerai d'une chose qui sera de l'actualité pour moi, parce que j'ai en projet d'aller observer des aurores boréales en Islande cette année, après y avoir été en Norvège l'année dernière. Et je pourrais peut-être rappeler d'où viennent ces phénomènes et à quel point ils sont beaux dans le ciel.
Très bien, mais ça fait à nouveau de belles perspectives. Michel, à nouveau, merci hein, de vous déplacer à chaque fois depuis votre Dordogne, votre chère Dordogne à Odeur Radio.
Mais c'est un plaisir de venir ici et de pouvoir se voir dans le studio. Je trouve un peu triste de faire les chroniques à distance au téléphone. Je préfère me déplacer.
Voilà, puis on va relayer cette info via Facebook. Hein. Donc comme ça, on rappellera sur le Facebook de la radio toutes les coordonnées si on veut en savoir plus. Et pourquoi pas même intervenir hein, si les auditeurs veulent faire remonter quelques infos sur votre chronique. Ne surtout pas hésiter. En tout cas, merci Michel. On se voit l'an prochain. Hein.
Voilà, l'année prochaine.